Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, c'est parti, nous sommes en direct comme tous les matins pour vous accompagner, vous réveiller, vous informer, débattre, on va aussi sourire, on va être ensemble et c'est bien ça l'essentiel le matin sur RMC pour attaquer la journée avec vous, que vous soyez déjà sur la route, déjà au boulot, peut-être parti depuis hier soir, je sais que certains travaillent de nuit, d'autres sont tranquilles encore au fond de leur lit, racontez-nous tiens. Où est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est peut-être au bout du monde pour certains? C'est très simple, vous nous envoyez un petit message sur l'appli RMC. Hein, vous avez votre téléphone à portée de main. Hop, vous allez sur l'appli RMC, sur l'onglet Direct Studio. Vous tapez un petit message et on le voit apparaître en direct avec Anaïs qui a elle aussi vos messages en direct sous les yeux.
Mais
bonjour
oui,
Anaïs.
Bonjour à tous.
Tiens, le premier message ce matin, là, 4h23. Laurent, salut les nuiteux. C'est comme ça qu'il nous appelle. 8 degrés ce matin en Bretagne Sud. Et bah oui, Laurent qui est vigilant à la météo. Ça tombe bien, Géraldine de Maury est là. Bonjour Géraldine.
Salut tout le monde.
Comment ça va ce matin, Géraldine?
Ah, frisqué ce matin, hein?
Frisqué? Non, mais moi, je te posais la question.
Bah,
toi,
je vais frisquer.
Je veux savoir, toi, comment tu vas? Je sais que tu vas me donner toute la météo et tout, mais des fois, il y a un cœur, il y a un être humain derrière ces températures et ces prévisions. Et donc, voilà, je m'assure d'abord que tu vas bien. Ensuite, on va regarder le ciel.
Je vais très bien et il fait un peu frais.
Voilà, les deux infos importantes. Et on va rentrer dans le détail, évidemment, de la météo du jour dans quelques minutes. Mais l'actu à la une, évidemment, ce matin. C'est cette journée spéciale que vous allez vivre sur RMC et sur RMC.fr. D'ailleurs, vous ne manquerez rien tout au long de la journée de cette journée de mobilisation. C'est la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette question ce matin, le risque de violence va-t-il décourager les manifestants?
Le ministre de l'Intérieur annonce 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. Et on n'a jamais eu autant depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Jusqu'à 900 000 manifestants devraient se réunir, selon une note des renseignements. Et selon Gérald Darmanin, donc, un millier d'éléments radicalisés, des black blocs, sont attendus. On redoute des violences à Paris, Lyon, Nantes ou encore Rennes.
Eh bien, dites-nous ce matin, est-ce que vous comptez vous mobiliser ou pas aujourd'hui, hein, cet appel à manifester un peu partout en France? On annonce du monde, mais aussi des tensions, des violences dans la rue. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que la violence, tiens, pourrait vous dissuader de rejoindre les cortèges? Est-ce qu'elle est inéluctable aujourd'hui, cette violence en marge des manifestations? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça peut vous refroidir? Vous êtes peut-être opposé à la réforme, mais inquiet quand vous voyez comment se sont déroulées les dernières manifestations. Faut-il craindre une flambée de violence aujourd'hui? On va en débattre avec vous ce matin au 32-16. Plus globalement, est-ce que vous êtes solidaire ou en colère vis-à-vis des grèves, des blocages qui se poursuivent, hein? Je pense aux parents d'élèves qui vont devoir se débrouiller parce que l'école est fermée aujourd'hui. Bah oui, Géraldine hoche la tête. Mais oui, c'est la dixième journée de mobilisation. Quelle suite pour ce mouvement? Là aussi, on peut en parler si vous le souhaitez ce matin au 32-16 et sur Direct Studio. Bah, par exemple, Laurent, notre breton, là, qui nous dit qu'il faisait 8 degrés ce matin en Bretagne, nous annonce que lui, il ira manifester. Il précise, entre parenthèses, paisiblement. Bah oui, on en est au stade où on doit préciser qu'on compte pas, qu'on espère participer à un cortège pacifique aujourd'hui. Dites-nous, vous, est-ce que vous comptez vous mobiliser ou pas aujourd'hui à l'appel des syndicats? Vous venez nous le dire au 32-16.
Mais c'est pas tout. Il y aura aussi, évidemment, tous nos rendez-vous, notamment mon choix à 5h10. On verra que le rêve de devenir propriétaire s'éloigne des Français. Vous êtes de plus en plus nombreux à dire qu'acheter un appartement ou une maison va devenir un privilège réservé aux riches. On y reviendra. On retrouvera aussi Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manu Le Chypre pour Le Chypre du jour, et puis Alex Biggerstaff va venir nous parler de Benjamin Pavard et de sa frappe providentielle.
Oh, sa frappe de bâtard, on peut le dire.
Oh, chat, tu vois, je sais pas.
C'est l'expression. Une de la presse, la frappe de bâtard aujourd'hui, pour Benjamin Pavard.
Faut dire que c'est vrai qu'on a tous la chanson en tête. Donc après sa prestation hier, c'est lui qui a inscrit un but contre l'Irlande. Les Bleus sont donc en tête de leur groupe de qualification à l'Euro 2024.
Et ben voilà, une bonne nouvelle.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 4h42, bon réveil à tous sur RMC. C'est la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors le risque de violence va-t-il décourager les manifestants?
C'est la question du jour sur RMC.
Dans ce contexte d'ultra-violence, les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
la mise en garde de Gérald Darmanin hier soir. Le ministre de l'Intérieur annonce donc, vous l'entendez, la présence de 1000 Black Blocs, ce qu'il appelle des éléments radicalisés. Et pour répondre à ce contexte d'ultra-violence, selon ses mots, eh bien, il a détaillé hier soir le dispositif de sécurité, Anaïs.
Il annonce 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. On n'a jamais eu autant depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Mais au-delà du risque de violence, on attend aussi tout simplement beaucoup de monde, beaucoup de manifestants pacifiques, comme on dit, dans les rues aujourd'hui.
Oui, 650 000 à 900 000 manifestants devraient se réunir selon une note des renseignements, dont 70 000 à 100 000 personnes à Paris, avec beaucoup de jeunes attendus apparemment, deux à trois fois plus que jeudi dernier, où ils étaient 30 000.
Et parmi les villes où on attend particulièrement du monde aujourd'hui, il y a Nantes. Nantes où on redoute aussi une flambée de violence. 40 000 personnes ont défilé jeudi dernier, mais certains casseurs se sont introduits dans le tribunal administratif, du mobilier urbain, une boutique ont été dégradées en centre-ville. Alors est-ce que ces tensions qu'on redoute aujourd'hui à Nantes pourraient décourager les manifestants? Eh bien Marion Gauthier a posé la question hier dans les rues nantaises.
Ce qui était une vitrine, encore au sol, des panneaux de bois pour barricader certains commerces.
On est étonné de cette violence, quoi.
Si elle est opposée à la réforme des retraites, Célia craint les manifestations.
J'aimerais soutenir les gens qui vont manifester. Après, j'ai peur, honnêtement, j'ai peur. Voilà. Il y a de gros dispositifs qui sont mis en place quand même, et du coup, ça dégénère. Il y a aussi les Black Blocs, enfin, c'est risqué d'aller manifester aujourd'hui.
Mais ces jeunes parents iront défiler à distance du cortège.
Ça va vite, les lacrymos, surtout en ce moment.
Ouais, c'est plus ça qui freinerait. Et où est-ce qu'on se met dans le cortège? Est-ce qu'on se met à côté des syndicats? Est-ce que c'est plus sûr?
Pour les dégradations, pas de justification, mais une explication.
Évidemment, je ne souhaite pas ça, personnellement. Maintenant, la colère, elle est là, elle s'installe depuis un petit moment. On en a un peu marre de manifester pour rien. Et donc, moi, je comprends que la colère, elle s'extériorise par des jets de pierre, par des incendies de poubelles, etc.
Sentiment partagé par Jérôme, un gardien d'immeuble.
Mais bien sûr, ouais, il faudrait plus de calme, il faudrait moins de casse. Ça décrédibilise le mouvement, forcément. Le vrai sujet, c'est le message. C'est qu'on ne veut pas bosser jusqu'à la fin.
Moins de défilés, plus de blocages, s'interroge-t-il, pour mieux crier l'opposition à la réforme des retraites, écrite sur de nombreux murs de Nantes.
Un reportage signé Marion Gauthier dans les rues de Nantes. Et vous, dites-nous, est-ce que ça vous inquiète ce climat de violence annoncé, d'ores et déjà annoncé en marge des cortèges aujourd'hui? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16. Est-ce que la violence pourrait dissuader certains de rejoindre les cortèges? Là aussi, on va en débattre si vous le souhaitez au 32-16. Tiens, le premier coup de fil ce matin au 32-16, c'est celui de Philippe qui est bouché dans l'Aude. Bonjour Philippe, comment ça va ce matin?
Ça va très bien Charles, merci. Très bon match hier soir.
Oui. C'est vrai, on peut commencer par ça, Philippe. Elle fait plaisir, cette équipe de France, non?
Ouais, enfin si, c'était sympa. Ouais, ils ont bien joué, ils se sont fait un peu bouger. Belle équipe d'Irlande, quand même. Hein, Maignan a été énorme. Okay, il a fait de ses arrêts. Il a été terrible. C'était sympa, quoi. Voilà.
Mais il faut le dire, il y a des choses sympas en ce moment dans l'actu, ouais, Philippe. Ouais, vous avez raison de commencer par ça. Voilà. Commençons par la bonne nouvelle, l'équipe de France.
On a du mal, ouais. En ce moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour tout le monde, quoi.
Mais non, mais c'est super match hier soir. En revanche, ça s'annonce un peu plus tendu aujourd'hui dans les rues.
Mais moi, je veux bien que les gens manifestent. Mais en fait, quand tu vas manifester comme Sainte-Soline avec des boules de pétanque, il faudra m'expliquer ce qu'on veut faire, quoi, à part en découdre. Et moi, j'estime que les flics, les forces de l'ordre, ils ont réagi comme il faut réagir, quoi. Je veux dire, tu vas pas manifester. Alors en plus, ce que j'aimerais quand même être un peu au clair pour certains par rapport à Sainte-Soline, c'est que il faut pas oublier que ils vont pas pomper la nappe phréatique.
Philippe, on va pas refaire Philippe, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On annonce 900 000 personnes dans les rues. Il y en avait 1 million jeudi dernier. On devrait être à peu près dans les mêmes ordres d'idées aujourd'hui. Il n'y a pas 1 million de Français aujourd'hui qui vont descendre avec des boules de pétanque dans les rues. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas résumer la mobilisation aujourd'hui dans les rues à la violence. Mais on la redoute aujourd'hui.
On est d'accord. On est complètement d'accord. Après la retraite, il faut y passer. À moins que certains veuillent que leurs impôts servent à financer la retraite de mecs qui partent à 55 ans. Moi, je veux bien. Mais moi, je veux pas. Je veux que mes impôts servent plutôt aux infirmières, aux régaliens, à financer la retraite de certaines personnes qui partent à 55 ans, quoi. Voilà.
Vous êtes pour la réforme, Philippe. C'est intéressant.
Mais
quand je vous dis que c'est intéressant, parce qu'il y a peu de gens, là, notamment depuis le 49-3, depuis l'interview d'Emmanuel Macron, qui nous appellent pour nous dire bravo à Emmanuel Macron, il a raison, c'est très bien cette réforme. Vous en faites partie, Philippe? Vous êtes pourtant un lève-tôt, un courageux, qui nous dit non, moi je suis pour cette réforme, elle est nécessaire.
Ben oui, l'argent, on va le trouver où? Il faut taxer les riches. Les riches, s'ils sont bons, on fait quoi? Si un jour Total dit, ben écoutez, moi je me casse, je vais en Amérique ou je vais n'importe où ailleurs, on fait quoi? Il faut 10 000 personnes sur le carreau, ils vont tout à pleurer dans la rue après. Non mais c'est facile de dire ça, prendre l'argent aux riches, ils ont qu'à se lever.
Oui, mais Philippe, vous entendez aussi ces manifestants, ces gens qui sont mobilisés, qui disent c'est pas possible non plus d'aller dire aux éboueurs, vous allez bosser 2 ans de plus.
Et pourquoi? Et moi, attends, j'ai 62 ans.
Non, mais j'entends, Philippe. Ouais, je vous donne juste les arguments de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui.
Les arguments, eh bien, à un moment donné, il faudra bien trouver l'argent quelque part.
Quoi. Ouais. Et pour vous, ça passe par de travailler plus longtemps.
Il va y avoir un actif et 10 passifs. On fait comment? Mmh. On fait comment? Après, moi, les mecs qui veulent me calculer, c'est pas un problème. Hein. Alors, après, où je suis peut-être con, j'ai rien compris. Hein. Mais d'après ce que tous les économistes disent, même M. Le Chypre, que j'adore, hein, comment dirais-je, lui-même, le premier, il dit, à un moment donné, il va falloir trouver l'argent quelque part. Après, que les gens m'expliquent comment on fait. Hein. Voilà, comment on fait pour récupérer les ronds.
Et autour de vous, Philippe, là, je ne sais pas, vous bossez, vous êtes en grande distribution, non, c'est ça?
Oui.
Alors racontez-nous autour de vous, là, les clients que vous croisez, les collègues et tout. Tout le monde est d'accord avec vous et soutient à fond la réforme?
Non, putain, je m'allume tous les 4 matins, mais...
je posais la question, je connaissais un peu la réponse, Philippe.
Je parlais avec une prof et une cliente qui travaille à SNCF. Mmh. On a fait argument contre argument. Mais à un moment donné, il faudra bien trouver l'argent quelque part. C'est facile de toujours taxer les riches, quoi. Je veux dire, moi, je travaille, je suis dans une coloc, et il n'y a que des gens qui foutent rien, qui ne sont jamais d'accord avec rien. Ils foutent rien de la journée.
Bon, en tout cas, Philippe, non, mais c'est intéressant, vous le dites, c'est argument contre argument en ce moment, et tant mieux, tant qu'on discute, c'est l'essentiel, Philippe, parce que tant qu'on discute, j'ai envie de dire, on se tape pas dessus. Et c'est très important qu'il y ait du dialogue, comme il y en a, vous le racontez autour de vous, avec les collègues, les amis, etc., en ce moment, autour de cette réforme et de ces manifestations, et tant mieux, parce que ça évite, c'est important qu'on continue à dialoguer, tout simplement, on continue à le faire d'ailleurs tous les matins en toute liberté sur RMC. Merci d'être passé, hein, Philippe, de bon matin,
avec plaisir, Charles,
pour lancer la matinée.
Anaïs, bonne continuation, merci de nous régaler le matin, c'est compliqué.
Et
j'envoie le bonjour au révolutionnaire Philippe Cuisinier d'Alais qui me fait toujours rire.
Ah, et c'est lui, vrai qu'il y a un autre Philippe qui est fidèle. Alors lui, c'est le discours inverse, il est complètement opposé à cette réforme.
Et si jamais, alors je le souhaite pas, mais si jamais un jour le Front National passe, je vais doucement rire parce que eux, ils ont des réformes qui vont être plus que radicales. Hein. D'après ce que j'ai compris, le chômage, c'est fini, quoi. Aucune distribution.
On va pas caricaturer, Philippe, mais vous avez raison de dire que voilà, toutes les opinions s'expriment le matin sur RMC. Philippe, vous êtes pour cette réforme. Vous dites qu'il est temps de travailler plus longtemps, c'est la seule solution. On va voir si tout le monde est sur le même créneau ce matin, comme vous, et espère peut-être qu'on en finisse avec ces mobilisations, ces manifestations. Ou à l'inverse, est-ce que vous comptez vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites? Venez nous dire si vous êtes d'accord avec Philippe sur le fait que cette réforme est inéluctable et que maintenant qu'elle est passée, il faut passer à autre chose. Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Et puis, il y a cette crainte des violences aussi. Là aussi, on en parle, évidemment, si vous le souhaitez, ce matin, au 32-16. Est-ce que la menace, la crainte de présence de Black Bloc, comme on dit, d'éléments radicalisés, comme dit Gérald Darmanin dans les cortèges, vous peut vous dissuader d'aller manifester? Là aussi, on en débat, si vous le souhaitez, au 32-16. Et vous nous envoyez aussi vos messages sur l'appli RMC, sur Direct Studio. D'ailleurs, vous êtes nombreux,
oui,
là, ce matin.
Ça réagit, là, tout de suite, là, oui, à ce que vient de dire Philippe, justement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont indignés. Philippe est totalement déconnecté de la réalité, nous dit Jean notamment.
Ah bah voilà, n'hésitez pas à réagir en direct évidemment, et puis sur Direct Studio, ça me permet aussi de faire le tour du monde parce que je vois que vous nous saluez d'un peu partout. Là, il y a Mike qui nous envoie des bisous de Miami, Sylvia qui nous écrit de Djibouti, David lui est en Nouvelle-Zélande, j'ai Olivier à Nouméa, ou encore qu'est-ce que j'ai encore, Mathieu lui est à Roissy, voilà, à l'aéroport de Roissy. Bah oui, le tour du monde sur Direct Studio, ça nous fait très plaisir de savoir que vous nous écoutez partout en France, mais aussi dans le monde entier grâce à l'appli RMC. On va se retrouver dans un instant avec des cadeaux à gagner dans la Voix du jour, et puis tiens, on va découvrir le choix d'Anaïs.
Je vais vous parler d'un des grands rêves des Français, devenir propriétaire et si possible d'une maison individuelle pour recevoir la famille, les amis, dans le jardin. Et bien ce rêve s'éloigne d'eux, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus y croire et à penser que ça va devenir un privilège réservé aux riches. Rendez-vous 5h10.
Mais oui, juste après le journal de 5h, le choix d'Anaïs, on ira acheter une maison avec Anaïs, vous allez voir, on va faire des visites, on va choisir les carreaux de la salle de bain ensemble, vous allez voir,
ouais,
un grand moment dans un instant. Mais d'abord, toute la bande qui nous rejoint autour de la table, évidemment, pour les petites histoires, pour bien se réveiller avec le sourire sur RMC.
RMC, Les histoires de Charles Matin.
Toute la bande, toute l'équipe qui s'est installée autour de la table, j'ai envie de dire du petit-déj d'RMC, Géraldine Demory, à ma droite, je vous fais le tour dans le sens inverse des aiguilles du monde, de droite à gauche. Mais oui, Géraldine Demory est là. Anaïs Castagna, évidemment, vous venez de l'entendre. Toujours. Arthur Asquin, bonjour Arthur.
Bonjour Charles, bonjour
Arthur. Et sa C1, sa voiture, qui est devenue quasiment un personnage de l'émission. Comment elle va?
C'est une mascotte, elle va très bien. Non, il y a un petit phare qui est en panne, il faut que je le change.
Enfin, et ben voilà, une info importante ce matin. Le phare de la C1 ne s'allume plus. Et Quentin Dubois, tout va bien.
Bonjour, salut Quentin. Bah, oui, ça va très bien.
Tout fonctionne bien au standard.
Ouais,
tout
bon.
S'allume,
ouais,
tous les voyants sont ouverts, ça clignote au standard, mais c'est l'heure des histoires. On va commencer, tiens, par Arthur. Arthur, ce matin, grâce à toi, on va, attention, imprimer notre repas.
Oui, ce sont des chercheurs de l'Université de Columbia à New York qui sont parvenus à imprimer en 3D un cheesecake cuit et comestible. Et
bon appétit, bien sûr.
Comment ils ont fait?
Eh ben, alors il suffit pas de cliquer sur imprimer cheesecake sur son ordinateur.
Oui, je commençais à rêver là.
Les chercheurs ont dû acheter d'abord les ingrédients, hein, du Nutella, du beurre, du cacahuète, du biscuit au supermarché, avant d'en faire un pâté, voilà, global. Et ensuite, l'imprimant a sorti couche par couche le gâteau cuit au laser. Ça prend une demi-heure.
Ben, c'est quoi l'intérêt?
Alors ça va pas mettre en danger Cédric Grolet ou Pierre Hermé, ça je vous le promets. L'idée c'est plutôt en fait d'améliorer les produits transformés, leur processus de fabrication grâce à cette technologie. On pourra aussi personnaliser les qualités nutritives des aliments et éviter aussi des contaminations bactériennes.
Oui. Voilà. Bah, on va continuer à les faire nous-mêmes. Hein.
Oui, il y a un peu un frein, c'est que ça coûte quand même un peu plus de 1000 euros, une imprimante 3D pour ça, et sans compter le laser, quoi.
Merci. Intérêt relatif.
Je joue mon Anthony Morel, mais à terme, dans le futur,
oui, c'est le début.
Ça sera peut-être démocratisé, voilà.
Peut-être. Voilà. On va rester sur un peut-être, hein, Arthur. Géraldine Demory, direction l'Italie, où McDo a bien du mal à se faire une place.
Le McDo, c'est l'esprit italien, notre excellence, notre biodiversité. Voilà la petite phrase qui ne passe pas. C'est le président d'une grosse organisation agricole italienne qui l'a prononcée. Organisation agricole qui a signé un partenariat évidemment avec McDo. Alors c'est vrai que dans les McDo italiens, on trouve du parmesan ou encore des tomates pacino. De là à dire que c'est l'excellence de la gastronomie italienne, il y a quand même un fossé. C'est un peu comme si on disait que le cheddar dans les burgers, c'est vraiment l'esprit des fromages français. Ouais, ça passerait pas non plus. Pour l'association Slow Food, il faut pas oublier que rajouter quelques produits locaux ne fait pas l'italianita. Ça reste une alimentation déséquilibrée, trop sucrée, trop salée, avec des produits ultra transformés, des conservateurs, des additifs. On est loin du régime méditerranéen, qui est au patrimoine immatériel de l'UNESCO, gage de santé et prisé partout dans le monde. Bref, entre McDo et l'Italie, le torchon brûle.
Ouais, je laisse la parole à Anaïs sur ce sujet, non?
Non, pas touche à la cuisine italienne.
Bien sûr.
Je te laisse le dire. Quentin Dubois, une étude qui nous révèle que les meubles IKEA les plus sympas, ou au contraire, les plus horribles à monter, qu'on soit seul ou en couple.
Oui, c'est le magazine Outlook Deals qui s'est posé la question sur la satisfaction ou le stress que le montage peut apporter. 100 participants répartis en duo ont dû monter 20 meubles en respectant le temps estimé par la marque. Buffet, armoire, table, ils sont passés par tous les formats. Leur rythme cardiaque et niveau de stress ont été mesurés. Et selon le résultat, un score de stress sur 100 a été établi.
Et alors, quel est le pire meuble, le plus stressant, le meuble à éviter à tout prix?
Alors, c'est le dressing PAX. 50% de réussite seulement pour un indice de stress de 100%. C'est un meuble à offrir plus qu'à monter en couple.
Ah, bravo.
Bah
oui, c'est très bien. Tu disputes bien. Enfin, je sais pas.
Ok, donc c'est le plus difficile à monter. Et le couple de Maury a survécu. Et donc le plus simple.
Alors le plus simple, c'est un best-seller, le Kallax, réputé pour ranger les vinyles entre autres. 100% de réussite pour un indice de stress de 9. C'est le plus simple, mais il apporte le moins de satisfaction. Les meubles qui se trouvent en milieu de classement sont plus appréciés. Il faut un minimum de défis pour flatter son ego. Ce serait pas mal de mettre cette donnée sur les étiquettes comme un Nutri-Score par exemple avant d'acheter.
Qu'on nous indique attention, risque de dispute dans le couple.
C'est ça.
A, B, C ou D au moment du montage du meuble. Anaïs, écouter de la musique au travail favoriserait la productivité.
Ouais, tu sais, au boulot, il y en a toujours qui écoutent la musique à fond et ils passent souvent pour des gens qui n'ont pas envie de bosser ou qui ont du mal à se concentrer. En fait, écouter de la musique au travail améliore nos performances. C'est ce que montre une étude américaine menée auprès de 2000 personnes. En les comparant, on s'est rendu compte que non seulement la musique ne les perturbait pas, mais qu'elle leur permettait d'obtenir de meilleurs résultats. Et en effet, quand on interroge les gens sur le sujet, 9 Américains sur 10 disent être plus productifs lorsqu'ils travaillent en musique. Les 3/4 affirment même que ça les aide à retenir des informations. Et ça permettrait aussi de booster la créativité. C'est ce qu'on voit sur les jeunes qui ont été interrogés. Ils font preuve de plus d'imagination que les autres. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ce matin au boulot?
Oui, c'est ça, écouter de la musique tout en travaillant. Ce que ne dit pas l'étude, c'est que ça multiplie par 12 votre productivité si vous écoutez RMC sur la route du boulot.
Bien sûr, évidemment.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, comme tous les matins, c'est une voix qui vous permet de gagner des très beaux cadeaux au 32-16.
Oui, comme tous les matins, on va écouter un court extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez cette voix, vous faites le 32-16 pour gagner.
Le ministre de l'Intérieur s'est lancé dans une opération de provocation généralisée. Le ministre Darmanin, qui devrait baisser le nez et avoir honte devant l'échec absolu de ce qu'est sa mission, garantir la tranquillité et l'ordre public.
Alors,
qu'est-ce qu'on donne comme indice? Vous l'entendez, c'est pas vraiment le meilleur ami de Gérald Darmanin. Ah. C'est l'homme qui se voyait à Matignon, mais qui aujourd'hui...
Oui, il s'est vu aussi à l'Élysée.
Oui, c'est vrai, il était candidat, mais depuis, il n'est plus rien, je crois. Il n'y a plus de mandat. C'est l'espèce de leader de l'ombre, on va le dire comme ça, de la NUPES. Mm-hmm. Ça va comme indice?
Oui, c'est pas mal.
Oui, ça va. Et de tous les cortèges, nous sommes souvent à Marseille dans les manifestations.
Voilà.
Bon, vous l'avez reconnu? C'est facile. Si vous avez reconnu sa voix, si vous avez le nom de cette personnalité, vous composez tout de suite le 32-16. Là, soyez rapide et vous allez gagner.
Des super baskets. Franchement, elles sont magnifiques. Baskets Wiz, des baskets tendance, confortables. Charles peut le dire puisqu'il en a une paire. Voilà.
Mais oui, je les porte régulièrement. Elles sont stylées. J'ose le mot de jeune. Oui, elles sont stylées. Oui, on peut le dire. N'hésitez pas.
Ça surprend quand on le voit d'ailleurs avec des baskets stylées.
Ah, mais je le prends très bien. Voilà. D'habitude, il est moche, mais là, avec les Wiz au pied, c'est la classe. Donc, si vous aussi vous voulez des baskets stylées, n'hésitez pas. Le 32-16, vous donnez le nom de la personnalité, de la voix du jour, et vous êtes le gagnant. Vous serez d'ailleurs en direct avec nous avant 5h30 sur RMC.
La voix du jour sur RMC avec Wiz. Des baskets tendance et confortables. Découvrez la collection sur Wiz.com. W6YZ.com. Just say Wiz.
Et avant 5h30, on va aussi retrouver le meilleur d'Arnaud Demanche. On va se marrer dans quelques minutes sur RMC. Mais tout de suite, on va découvrir le choix d'Anaïs.
On va parler d'accès à la propriété. L'un des grands rêves des Français peut-il encore se réaliser? Vous êtes de plus en plus nombreux à en douter.
Ah, ce qu'on va acheter avec Anaïs? Réponse dans un instant.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h13, bon réveil à tous. Tiens, c'est l'heure de l'info en plus dénichée par Anaïs.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Anaïs, ce matin, tu as décidé de nous parler d'un des rêves des Français, accéder à la propriété.
Oui, avoir son petit appartement, sa petite maison à soi, un rêve partagé par de nombreux Français d'ailleurs. S'il y a bien une chose qui symbolise ça, c'est le carton des émissions de Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus connu de France qui aide les Français à trouver le bien parfait.
Super salle de bain, baignoire d'angle et la double barre.
Des émissions qui ont longtemps marché parce que les Français pouvaient s'identifier aux acheteurs. Mais aujourd'hui, écoute bien ce chiffre, Charles. 3/4 des Français pensent que l'accès à la propriété va devenir un privilège réservé aux élites.
Lorsque l'on entre dans cette maison, on découvre ce vestibule décoré de colonnes.
C'est ce qui ressort donc du baromètre de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles réalisé par l'IFOP. C'est 14 points de plus que l'an dernier. L'explication est à trouver du côté des taux d'intérêt qui ont nettement augmenté ces derniers mois, ce qui rend l'accès à la propriété plus compliqué, d'autant que les banques sont plus exigeantes. Et puis les prix des matières premières ont également explosé, ce qui rend la facture plus salée pour ceux qui font construire.
Oui, ça devient très cher, très compliqué d'accéder à la propriété. Pour autant, les Français n'ont pas totalement renoncé à leur rêve de devenir propriétaire.
Et ça doit douiller par moi là, ça doit.
Je suis proprio.
Oh, t'es proprio en plus.
Ouais, et tu sais pourquoi, Charles? Parce que les murs d'une maison ou d'un appartement, eh bien, ça rassure. Tu sais où est ton argent? C'est ce que disent plus d'un Français sur deux qui considère qu'être propriétaire, c'est avoir fait un placement sécurisé dont tu profiteras toute ta vie et qui peut même te faire gagner un petit peu d'argent si tu le mets en location.
C'est chez nous ici. Il y a un loyer pour la chambre.
Sans parler de la plus-value qui peut faire un petit pactole à la revente. Et puis à l'heure où nombreux Français s'inquiètent pour leur retraite, tiens, c'est aussi une manière d'être prévoyant en se disant au moins quand je serai à la retraite, bah, j'aurai plus de loyer à payer.
Et puis devenir propriétaire, pour beaucoup, ça reste un passage un peu obligé, quoi.
Une preuve de réussite, un peu comme la Rolex pour les riches. Si t'as pas réussi à acheter ton pavillon, bah t'as raté ta vie. Je dis pavillon parce qu'en fait, les Français préfèrent les maisons. À la question, si vous aviez le choix, où voudriez-vous vivre ? 84% répondent dans une maison individuelle. C'est 4 points de plus que l'an dernier. Ça s'explique par le fait que les Français accordent de plus en plus d'importance à la qualité de vie. Ils veulent un jardin avec un barbecue pour pouvoir inviter les amis, quitte à devoir s'éloigner des villes pour pouvoir se l'offrir.
Oui, c'est tout le dilemme. Est-ce qu'on se met 30, 40, 50 kilomètres de trajet et donc et après, les prix des transports, des carburants, ouais, etc. pour avoir un peu plus de jardin, une pièce en plus, etc. Bah ça, évidemment, c'est la question que se pose beaucoup au moment d'acheter. Mais oui, ce rêve français de devenir propriétaire qui est de plus en plus inaccessible, en tout cas de plus en plus contraint en ce moment avec les taux d'intérêt et ce sondage de l'IFOP dont Anaïs voulait absolument nous parler. T'as eu bien raison ce matin de le mettre en avant, parce que oui, on parle beaucoup de cette réforme des retraites, mais il y a aussi d'autres urgences en ce moment pour les Français, notamment côté pouvoir d'achat et inflation. Mais on va revenir évidemment à cette 10e journée de mobilisation. On va aller voir ce qu'on en dit ce matin au 32-16. Tiens, on va accueillir Kevin qui nous appelle, alors j'allais dire de Neuilly-sur-Marne, mais du côté de Rungis plutôt ce matin pour le boulot, c'est ça? Bonjour Kevin.
Bonjour, bonjour.
Salut Kevin. Comme
l'équipe.
Salut Kevin. Comment ça va ce matin? Vous êtes livreur, c'est ça? Racontez-nous.
C'est ça. Bah, je suis livreur pour une boucherie de gros. Là, je suis en direct de Rungis. J'attends ma marchandise. Voilà, pour rentrer au dépôt et ensuite aller livrer les restaurants parisiens.
Eh ben, d'abord, vous embrassez tout Rungis pour nous. On a fait l'émission à Rungis au mois de décembre.
On a adoré, on s'est régalé.
Voilà, on s'est régalé une nuit. On a passé la nuit à Rungis. C'était un vrai plaisir. Donc, voilà, on est très content de vous savoir là-bas. Kevin,
ça va bien. Sa vie à Rungis.
Mais oui. Exactement, c'est une petite ville, même une grande ville, parce qu'il y a beaucoup de monde à Rungis. Ça vit la nuit à Rungis, grâce à vous, notamment Kevin. Et ben, racontez-nous, tiens, vous justement qui faites le tour des restos, j'imagine, en région parisienne en ce moment. On entend beaucoup là, les restaurateurs en ce moment dire on est exaspérés, on n'en peut plus des grèves, etc. Là, cette nouvelle journée de mobilisation, quand vous faites le tour des restos, là, ils font grise mine en ce moment, non, Kevin?
Bah, ils font un petit peu grise mine, étant donné que les poubelles aussi, ça passe beaucoup devant les restaurants, les hôtels. Donc c'est sûr que ça ne doit pas forcément attirer le client. Et sinon, bon, bah, la semaine dernière, j'ai trouvé que ça restait quand même raisonnable, les commandes. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très, très heureux, les restaurateurs, de tout ça.
Oui, ils ont peur aussi de l'image pour les touristes, etc. Vous-même, Kevin, là, en tant que chauffeur-livreur, je ne sais pas si. Est-ce que vous faites partie de ces Français opposés ou pas à la réforme? Est-ce que vous comptez manifester ou pas, être en grève ou pas? Visiblement, non. Vous bossez ce matin. Hein.
Alors, comme je disais hors antenne, en fait, moi, je suis un travailleur, donc je travaille au quotidien, mais comme j'ai dit, quand je vois des gens manifester sur le bord de la route ou des choses comme ça, évidemment, je les soutiens parce qu'ils donnent quand même de leur temps, et ils essayent de défendre aussi nos droits, parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même passé cette réforme, on va dire, quand même plus ou moins de force avec le 49-3, et je pense que parfois quand même le gouvernement il ferait bien quand même d'écouter un petit peu sa population.
Oui, on a l'impression que c'est autant le fond de la réforme que la forme, que la manière dont ça s'est passé, la méthode, voilà, qui choque. Ça. Mais si j'entends Kevin, ouais, vous n'êtes pas forcément en grève, mais solidaire, on va le dire comme ça, de ceux qui font grève et de ceux qui manifestent. Et en revanche, ce matin, Kevin, là, vous qui êtes allé à Rungis, etc., qui avait déjà un peu roulé, vous constatez pas de blocage particulier, de ralentissement, etc., de mobilisation particulière sur les routes, etc.
Non, sincèrement, depuis le début de la grève, la nuit comme ça, on voit pas trop d'impact. Hein. C'est surtout le matin. Le matin, quand on commence nos tournées aux alentours de 7h30, 8h, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de mal à rentrer sur Paris.
On va être vigilant ce matin.
Au blocage, je pense que les gens veulent se dépêcher de venir et pouvoir rentrer dans Paris pour pouvoir bosser pour ceux qui bossent et éviter justement ces blocages. ces blocages que
Alors, vous savez quoi, Kevin, soyez vigilants, parce que ce matin sur RMC, vous savez, nos reporters sont mobilisés, justement, on a des reporters déjà sur le terrain qui surveillent, qui sont à l'affût, justement, voir s'il y a des mobilisations, des points de blocage particuliers. On se souvient notamment, par exemple, je me souviens du 7 mars où la CGT avait bloqué une partie du périphérique parisien pendant un certain temps. Et un peu partout en France, ce matin, nos reporters sont mobilisés pour nous signaler s'il y a des points de blocage particuliers, des actions, on va le dire comme ça, particulières, spontanées, qui se mettent en place un peu partout. On va surveiller ça de très près, mais je vous remercie, Kevin, d'être passé comme ça de bon matin au 32-16. Je sais pas, c'est la première fois que je vous entends, Kevin, non, avec tout là,
exactement,
de bon matin. Ah, bah, écoute, exactement, voilà. J'avais un doute, mais voilà.
Bah, faut venir, un bon réflexe.
Eh bah, très bon réflexe, Kevin. Le petit message, le petit coup de fil le matin, comme ça, voilà, comme ça, on est ensemble.
C'est plus compliqué que d'autres. Mais là, ça va, j'ai un petit peu de temps.
Eh bah, ben, vous savez quoi, Kevin, ça me fait tellement plaisir d'entendre pour la première fois. On va prendre vos coordonnées, là, en antenne. Vous quittez pas, on va vous envoyer. On va vous trouver ce que vous voulez, un t-shirt des grandes gueules, peut-être un mug, RMC, bref, un petit goodies ce matin. C'est cadeau, Kevin, voilà, un lefto qui est au boulot avec RMC et on vous accompagne ce matin sur la route en tant que livreur. Voilà, si vous êtes lancé dans votre tournée depuis Rungis vers les restaurants d'Île-de-France, on remercie Kevin d'être passé par le 32-16. Tiens, Kevin, solidaire des grévistes et des manifestants, même s'il n'y participera pas. Venez nous dire, vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes mobilisé ou pas contre cette réforme des retraites? Est-ce que les violences aussi qu'on redoute, qu'on annonce, hein, déjà, de Gérald Darmanin parle de 1000 éléments radicaux, des black blocs dans les cortèges aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça va décourager certains Français d'aller manifester? Venez nous le dire ce matin, vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, cette journée spéciale, on va la vivre avec vous ce matin à l'antenne au 32-16 sur Direct Studio, sur le site rmc.fr aussi, vous ne manquez aucune info en direct en écoutant RMC. Il est 5h21, on va se retrouver dans un instant avec un peu de détente, un peu de sourire avec Arnaud Demange, tout simplement le meilleur d'Arnaud Demange pour bien se réveiller, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
La ville bretonne de Landerneau a tenté de battre le record de Schtroumpf ce week-end.
Oui, Charles en parlait tout à l'heure. Alors, en ces temps troublés, ça fait du bien de voir qu'en France, il y a des rassemblements où on voit des milliers d'hommes en bleu sans que ça vire à l'affrontement entre manifestants et forces.
C'est vrai.
Heureusement. Pardon. Non, mais c'est joli, là. La photo, elle est sympa si vous la voyez sur RMC Story. Alors, je vais vous dire un truc que j'ai pas beaucoup dit dans ma vie, mais là, je suis jaloux du physique d'Éric Zemmour. Si j'étais Éric Zemmour, je m'amuserais beaucoup à aller dans un truc comme ça. 20 ans que tout le monde me dit que je ressemble à Gargamel, ben, j'irais à Landerneau, je me mettrais une grande robe noire et je courrais derrière tous les Schtroumpfs en disant « Je vous attraperai, bande de misérables nabos bleus !» Je m'éclaterai. Pourquoi il le fait pas? C'est une belle occasion de s'amuser. Il y a eu 2600 Schtroumpfs, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour battre le record détenu par la ville allemande de Lauschringen, qui a réuni 2762 Schtroumpfs. Et non, pour que tous les habitants d'une ville se déguisent en Schtroumpf, c'est effectivement qu'ils ont consommé quelques champignons. Hein. Mais voilà, on n'a pas battu le record. Par contre, on en a d'autres. Et c'est l'occasion d'un petit quiz.
Qu'est-ce qu'on a comme record?
Quel record la France a-t-elle battu? Alors, le gagnant remporte une teinture rose fluo faite par les enfants
d'Antoine
Griezmann.
Je veux.
Vous voulez, vous prenez.
Je veux.
Banco. Main sur les champignons, les Schtroumpfs. C'est parti. Est-ce que ce record est français? Top. Plus grand nombre de noix cassées avec ses fesses en une minute.
Vrai? Avec ses fesses, mais non. Faux.
Si, il est vrai, il est français, c'est 58 noix en une minute.
Quoi?
58 noix à la minute. Crachat de noyaux de cerise le plus loin.
Oh bah ça, on sait.
Non, il n'est pas français, il est américain. 33-62.
C'était beau comme record.
Plus grand nombre de 49-3.
Ah bah, français.
Vrai, français record. Plus grand nombre de kilomètres à la nage dans des déchets. C'est vrai, il est français, 626 km, il s'est entraîné dans la Seine, je pense. Plus grande collection de cravates colorées pour faire des chroniques économiques.
C'est Manu le Chip.
Plus grand nombre de pulls portés en même temps.
Ça existe ce record?
Ça existe.
C'est pas français.
C'est américain.
Ah ouais, c'est ça, faut être un peu fêlé quand même.
Des 19 degrés de chauffage. Plus grand nombre de jonglages avec des tronçonneuses allumées.
Polonais.
Non, c'est pas loin.
C'est très stupide.
Ça devait être qu'américain. 62 fois.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours.
Et on retrouve Arnaud, évidemment, tout à l'heure. On a hâte en direct, 7h20, 8h20, dans Apolline Matin. Et tout de suite, à 5h26, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
C'est Sébastien qui a été le plus rapide ce matin pour jouer avec nous à la voix du jour. Sébastien qui est du côté de Rennes. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Comment ça va ce matin? Vous êtes au boulot?
Oui, je viens d'arriver au travail là, je vais bientôt commencer.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille à Super U, je fais de la préparation de sandwichs pour le.
Ok.
Pour le
Super U. Donc en grande distribution.
Bah, désolé pour la marque.
Ah bah vous avez le droit, non, non.
Leclerc, comme ça.
On dit tout le matin sur RMC, Sébastien. Donc déjà levé tôt, vous venez d'arriver au boulot et la journée va très bien commencer si vous avez reconnu la voix du jour.
On va voir, on vérifie, on réécoute ensemble la voix du jour. On a votre réponse dans la foulée, Sébastien.
Le ministre de l'Intérieur s'est lancé dans une opération de provocation généralisée. Le ministre Darmanin, qui devrait baisser le nez et avoir honte devant l'échec absolu de ce qu'est sa mission, garantir la tranquillité et l'ordre public.
Alors, Sébastien.
Bah moi, je pense à Jean-Luc Mélenchon.
Eh ben, je pense que c'est gagné. Bravo, Sébastien. Ah, yes. Vous avez reconnu la voix de Jean-Luc Mélenchon, ce qui vous permet de remporter, attention.
Bah, on vous envoie des super baskets, des baskets quiz, tendance, confortable. On les a essayées à la rédac. Bah, elles sont top de chez top.
Elles sont top de chez top.
Voilà. Super cadeau.
Mais oui, elles sont cool. Elles sont stylées, comme disent les jeunes. Donc, Sébastien, on vous les envoie du côté de Rennes. Vous quittez pas en provo coordonnée en antenne et on vous souhaite bon courage pour le boulot, Sébastien.
Merci, bah, vous de même.
À très vite, Sébastien. Ouais. On vous envoie vos baskets. Et puis, évidemment, la Voix du Jour revient demain dès 5h pour récompenser les leftos sur RMC.
La Voix du Jour sur RMC avec Wiz. Des baskets tendance et confortables. Découvrez la collection sur Wiz.com. W6YZ.com. Just say Wiz.
5h28 sur RMC. Dans un instant, évidemment, votre journal de 5h30. Mais d'abord, l'info bonus d'Anaïs. Ça y est, Anaïs, on peut voter pour Les Flammes.
Ouais, c'est la nouvelle cérémonie qui célèbre le rap et les cultures populaires. Une réponse au manque de représentativité du rap lors des Victoires de la Musique. 13 des 21 catégories sont ouvertes au vote du public. Et c'est le rappeur Tiakola qui est en tête des nominations. Tiakola qui était nommé dans la catégorie révélation masculine cette année aux Victoires de la Musique, mais il s'est incliné, ça fait beaucoup parler, ça a suscité l'indignation. Finalement là, il est nommé 11 fois pour Les Flammes, y compris dans la catégorie meilleur album. Chez les femmes, c'est Renizia qui est en tête des nominations 7 fois contre 5 pour la reine Aya Nakamura. Et vous pouvez donc voter depuis hier jusqu'au 10 avril d'ailleurs pour désigner 3 finalistes dans toutes les catégories ouvertes au public. Un jury donnera aussi son avis et les finalistes seront dévoilés avant le 11 mai, jour de la cérémonie qui aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Cérémonie durant laquelle on va aussi visiblement voir des stars du cinéma, du sport. Mbappé, star des Bleus, aura notamment été approché.
Ah, donc à suivre cette cérémonie, Les Flammes, où ils sortent de Victoire de la Musique version rap et musique urbaine. Donc 5h29 sur RMC dans un instant, les infos, le journal de Rémi Inc, avec à la une évidemment cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h41, vous êtes bien sur RMC. C'est aujourd'hui la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le risque de violence va-t-il décourager les manifestants?
C'est la question du jour sur RMC.
Dans ce contexte d'ultra-violence, les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
La mise en garde de Gérald Darmanin hier soir, le ministre de l'Intérieur annonce, vous l'entendez, la présence de 1000 black blocs dans les cortèges, des éléments radicaux, comme il dit. Et pour répondre à ce contexte d'ultra-violence, là encore, ce sont ses mots, il a détaillé hier soir le dispositif de sécurité.
Le ministre de l'Intérieur annonce 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. Il n'y en a jamais eu autant depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Mais au-delà de ce risque de violence, on attend aussi tout simplement beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui.
650 000 à 900 000 manifestants devraient se réunir selon une note des renseignements, dont 70 000 à 100 000 personnes à Paris, avec beaucoup de jeunes attendus apparemment, 2 à 3 fois plus que jeudi dernier où ils étaient 30 000.
Et parmi les villes où on attend du monde, des jeunes, mais où on redoute aussi une flambée de violence, il y a Nantes. 40 000 personnes ont défilé jeudi dernier à Nantes. Certaines se sont introduites dans le tribunal administratif, ont cassé du mobilier urbain, une boutique a été dégradée en centre-ville. Est-ce que ces tensions qui pourrait décourager les manifestants? Eh bien, Marion Gauthier a posé la question hier dans les rues nantaises.
Ce qui était une vitrine encore au sol, des panneaux de bois pour barricader certains commerces.
On est étonné de cette violence, quoi.
Si elle est opposée à la réforme des retraites, Célia craint les manifestations.
J'aimerais soutenir les gens qui vont manifester. Après, j'ai peur, honnêtement, j'ai peur. Voilà. Il y a de gros dispositifs qui sont mis en place quand même et du coup, ça dégénère. Il y a aussi les Black Blocs, c'est risqué d'aller manifester aujourd'hui.
Mais ces jeunes parents iront défiler à distance du cortège.
Ça va vite, les lacrymos, surtout en ce moment.
Bah, c'est plus ça qui freinerait. Et où est-ce qu'on se met dans le cortège? Est-ce qu'on se met à côté des syndicats? Est-ce que c'est plus sûr?
Pour les dégradations, pas de justification, mais une explication.
Évidemment, je ne souhaite pas ça, personnellement. Maintenant, la colère, elle est là, elle s'installe depuis un petit moment. On en a un peu marre de manifester pour rien. Et donc, moi, je comprends que la colère, elle s'extériorise par des jets de pierre, par des incendies de poubelles, etc.
Sentiment partagé par Jérôme, un gardien d'immeuble.
Mais bien sûr, ouais, il faudrait plus de calme, il faudrait moins de casse. Ça décrédibilise le mouvement, forcément. Le vrai sujet, c'est le message. C'est qu'on ne veut pas bosser jusqu'à la fin.
Moins de défilés, plus de blocages, s'interroge-t-il, pour mieux crier l'opposition à la réforme des retraites, écrite sur de nombreux murs de Nantes.
Le reportage de Marion Gauthier pour RMC à Nantes. Mais maintenant, on va voir un peu ailleurs en France avec vous, au 32-16. Tiens, on va accueillir Khaled qui nous appelle depuis la Gironde. C'est ça, bonjour Khaled.
Ouais, bonjour toute l'équipe.
Salut
bonjour.
Khaled. Je vous demande où vous êtes d'abord, parce que je vois que vous êtes chauffeur poids lourd, donc peut-être déjà sur la route.
Oui, là, je suis sur le retour. Là, je rentre sur Bordeaux.
Vous rentrez sur Bordeaux, ok. Ça s'est bien passé cette nuit.
Ah oui, ça va. La nuit, ça va. Il y a pas trop de monde.
C'est tranquille. Voilà, pas trop de monde. tranquille dans le camion. Avec RMC, exactement. J'imagine, Khaled, pour vous accompagner.
Exactement. C'est la première fois que j'appelle. Je me suis dit, je vais appeler ce matin.
Excellent réflexe. Bienvenue, voilà. Khaled. C'est votre première.
Merci. C'est ma première. Pas la dernière, je pense.
J'espère pas. Évidemment, Khaled, vous vous installez autour de la table avec nous, le petit déj tous ensemble le matin. Sur RMC, on fait le tour de France un peu ce matin, on prend le pouls de l'opinion, dixième journée de mobilisation. Alors Khaled, tiens, je vous pose la question, est-ce que vous êtes contre cette réforme? Est-ce que vous comptez manifester ou pas?
Alors manifester, non, je ne peux pas, et là, ça, avec mon métier, c'est pas possible. Mais oui, je suis tout à fait contre cette réforme, elle est totalement, c'est inadmissible. On peut pas travailler jusqu'à 64 ans.
Vous avez quel âge, vous, Khaled?
Surtout, j'ai 48 ans. Ouais. Je suis chauffeur poids lourd depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. Et j'ai déjà le dos en charpie, hein. Faut être honnête. Ouais. Donc déjà, c'est impossible.
Donc l'idée de travailler plus longtemps, vous êtes contre.
Contre, complètement.
Mais si je comprends bien, solidaire des manifestants, mais pas possible pour vous d'être dans la rue.
Non, pas possible. Après, la casse, non. Je suis pas d'accord pour la casse, ça c'est pas normal. On ne doit pas casser, ça sert à rien de toute façon.
C'est presque contre-productif, non? C'est ce qu'on entendait dans le reportage dans les rues nantaises. C'est qu'aujourd'hui on parle plus presque des violences que du fond du
voilà, on parle de dossier. Ça, on parle de la casse, on parle de la police, on parle des manifestants, des Black Blocs, tout ça, on parle que de ça. Mmh. On parle plus du vrai problème.
Oui, et pour vous, c'est toujours cette réforme des retraites. On va bouger pas, Khaled. On va traverser la France d'ouest en est. On va aller à Grenoble. On va quitter la Gironde et Bordeaux pour Grenoble. On va retrouver Rémi, le fidèle Rémi qu'on connaît bien, qui est agent d'entretien de Bon Matin avec RMC. Salut Rémi.
Bonjour.
Alors vous, Rémi, de mémoire, toujours mobilisé, j'imagine que vous serez à nouveau dans la rue aujourd'hui.
Jusqu'au bout
et malgré les risques de violence qu'on annonce. Alors pas forcément à Grenoble, je sais pas, ça a été calme jusqu'à présent pour vous à Grenoble?
Oui. À part des poubelles, on n'a rien eu.
Ok, et donc ça vous dissuade pas de descendre dans la rue quand le ministre de l'Intérieur parle de contexte d'ultra-violence?
Ah non, mais moi même si je serais à Paris, je descendrais tout pareil. C'est juste pas possible, ça peut pas passer un truc pareil. Si ça passe, après on pourra passer n'importe quoi derrière. Ça ne doit pas passer. On ne peut pas accepter qu'une loi passe contre deux tiers de la population. C'est un non-sens démocratique.
Et vous espérez encore qu'Emmanuel Macron revienne sur cette réforme? Ou est-ce que, je ne sais pas, vous misez sur le Conseil constitutionnel, sur de nouvelles négociations avec les syndicats? C'est quoi la sortie de crise pour vous, Rémi?
N'importe quoi qu'il fasse que cette réforme ne passe pas, ce sera bon. Monsieur Macron, enfin, je veux dire, on peut avoir du respect pour l'homme, pour la fonction, pour tout ce qu'on veut. Mais honnêtement, pour laisser les trucs s'envenimer à ce point, en ayant prévu à l'avance et en sachant comment ça allait se passer, parce qu'il y a des gens qui lui disent depuis la dernière réforme que ça se passerait comme ça, je pense que c'est pas une personne qui est très avisée et je pèse lourdement mes mots.
Mmh. Oui, donc pour vous, peu importe la manière, il faut que quoi qu'il arrive, que cette réforme ne passe pas. Est-ce que pour vous, Khaled, c'est la même chose, c'est le même sentiment que Rémi, quoi qu'il arrive, il faut pas que cette réforme passe?
Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. C'est totalement inadmissible ce qui se passe aujourd'hui par rapport à M. Macron, clair. Il est complètement déconnecté, ce monsieur. Hein. Je suis désolé, mais je pense qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, vraiment. Déjà, premièrement.
Je sais pas si c'est la question, mais en tout cas, Khaled, oui, on sent que ce soit vous, Rémi, on sent une certaine détermination à ne pas laisser passer cette réforme.
Faut surtout pas la laisser passer, parce que de toute façon, Rémi a raison, si jamais on laisse passer ça, on est foutu.
Après, ce qui vous différencie, c'est la méthode. C'est Rémi qui nous dit, quoi qu'il arrive, je continuerai à descendre dans la rue. Vous, Khaled, vous dites, bah non, je peux pas à cause du boulot. Mais voilà, on vous sent solidaire. Et en tout cas, vous êtes passé nous le dire ce matin au 32-16. On va remercier Rémi de Grenoble. Et vous, Khaled, on vous remercie aussi particulièrement puisque c'est votre première. Vous n'hésitez pas à revenir la prochaine fois quand vous le souhaitez, évidemment, le 32-16. Oui, vous l'entendez.
Je reviendrai.
Bah, vous voyez que c'est très simple. Un petit coup de fil à Quentin au standard et hop, vous êtes à l'antenne le matin pour partager avec nous. Et puis, tiens, comme c'est votre première, Khaled, vous savez quoi? On va vous gâter là, vous quittez pas. Quand vous repassez au standard, on va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer un petit cadeau, un petit t-shirt RMC pour fêter cette première, Khaled, ok?
Ah bah super, c'est cool, merci. Merci toute l'équipe.
Et bonne route, Khaled, on reste avec vous évidemment, dans le camion du côté de Bordeaux. Vous faites comme Khaled, comme Rémi ce matin. Venez nous dire, est-ce que vous êtes toujours opposé à cette réforme? Est-ce que vous comptez vous mobiliser ou pas? On voit bien qu'il y a différents, il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont solidaires mais qui ne descendront pas comme Khaled, qui n'ira pas manifester. À l'inverse, Rémi qui nous dit, quoi qu'il arrive, violence ou pas, je serai dans la rue. Est-ce que justement ces violences vous inquiètent aujourd'hui, hein? On nous annonce, c'est ce qu'annonce Gérald Darmanin, 1000 éléments radicaux, dit-il, les fameux Black Bloc. Mais alors, qui sont-ils là, ces Black Blocs? D'où ils sortent? Comment ils s'organisent? On va tout savoir avec un journaliste spécialisé qui enquête depuis des années sur ces Black Blocs. Il sera avec nous juste après le journal de 6h en direct sur RMC et RMC Story. Ce sera notre invité Thierry Vincent pour tout savoir des Black Blocs juste après les infos de 6h à la radio et à la télé sur le canal 23 de la TNT. Mais tout de suite, vos deux rendez-vous, vos deux chroniqueurs préférés. Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Anthony, dans C'est déjà demain, dans un instant, on va parler de...
Écoute, je sais pas si c'est la révolution dans les rues, mais moi je vais vous parler de la révolution robotique dans les hôpitaux.
Ah, des robots pour nous soigner, pour nous sauver même dans un instant avec Anthony. Et puis Arthur Asquin, bonjour.
Bonjour Charles.
Au menu de tes histoires.
On va faire un tour sur la Lune.
Allez, rien que ça. Arthur nous fait rêver dans un instant. Mais d'abord, à 6h10, si vous venez de vous réveiller, si vous venez de vous brancher sur RMC, voici les trois infos à la une de l'actualité avec Anaïs.
À la une ce matin, cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 200 rassemblements prévus, jusqu'à 900 000 manifestants attendus. Et parmi eux, plus de 1000 éléments radicaux pour être présent, selon Gérald Darmanin. Un témoignage justement ce matin, celui d'un Black Bloc qui était dans la rue la semaine dernière et qui y sera encore aujourd'hui. Écoutez.
On pourrait dire qu'on utilise des modes d'action radicaux. On casse ce qui représente le capitalisme, ce système qui est injuste. Moi, j'ai considéré que c'est le seul mode d'action qui permettait de faire parler de nos idées.
Ce témoignage est à RMC, est à découvrir dans le journal de Quentin Vinet. 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui. De son côté, Emmanuel Macron assure qu'il veut tendre la main aux syndicats tout en accusant la France insoumise de vouloir délégitimer les institutions. On y reviendra dans le journal de 6h là aussi. Et puis les Bleus ont battu l'Irlande 1-0 hier soir. But de Benjamin Pavard. Les joueurs de l'équipe de France ont pris la tête de leur groupe de qualification à l'Euro 2024.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, qui est venu accompagner évidemment de ses meilleurs amis, les robots. Ouais. On parle encore de robots ce matin, Anthony, avec toi. Un robot, cette fois, qui sauve des vies. Rien que ça. Une machine incroyable qui aide à opérer des cancers avec un niveau de précision extrême. Et en plus, Cocorico, ce robot est français.
Exactement. Il y a une excellence française dans le domaine de la robotique. Il faut la mettre en avant. Et surtout, ce robot qu'on va commencer à voir arriver dans les hôpitaux, qui s'appelle Epion, et qui a été conçu pour opérer des cancers du foie, du rein, du pancréas, bientôt du poumon et des os, à un stade précoce, des opérations extrêmement délicates. Alors, le petit nom, c'est l'ablation percutanée des tumeurs. Voilà. En gros, on va utiliser ce bras robotique pour insérer une aiguille à travers la peau jusqu'à une tumeur qui fait quelques millimètres de diamètre. Et on va venir la découper, réaliser une ablation sans avoir besoin d'irradier toute une zone. C'est une révolution. Ce bras robotique, en fait, il va guider la main du chirurgien. Il va servir de GPS du corps humain, si on peut dire, et permettre de viser de manière extrêmement précise. On est dans ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, donc beaucoup moins lourde que d'habitude. On n'a pas besoin d'ouvrir l'abdomen. C'est une intervention qui se fait en ambulatoire, sous anesthésie locale, là où d'habitude il faut des opérations très lourdes. Et ça permet surtout de traiter des tumeurs très très tôt. Aujourd'hui, on est dans une situation assez dingue où parfois on diagnostique un cancer, mais on est obligé d'attendre que la tumeur grossisse pour pouvoir l'opérer. Et ben là, ces robots, ils vont permettre de faire ça de manière beaucoup plus précoce.
C'est considérable.
Exactement. Et c'est pas pour dans 50 ans. C'est déjà utilisé aujourd'hui, par exemple, à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif et au CHU de Lyon. Il y a plusieurs dizaines de patients qui ont déjà été
utilisés. Et alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'en France, on commence à les voir arriver un petit peu partout, ces robots.
Il y en a de plus en plus. La robolution est en marche. On compte 5000 robots chirurgicaux dans le monde. Et si on prend la star, c'est un robot qui s'appelle Da Vinci, qui est un système de une une sorte de pieuvre robotique avec des micro-pinces qui sont gérées par des manettes, par un médecin humain. Il y a toujours un médecin humain quand même derrière tout ça, et dont on se sert, par exemple, pour opérer la prostate. Il y a la moitié des opérations de la prostate en France qui sont gérées comme ça. Aux États-Unis, c'est plus de 90%. L'avantage, c'est qu'en fonction des opérations, le temps d'hospitalisation va être divisé par 3 ou 4. Donc, c'est absolument énorme. Et ça permet aussi, potentiellement, d'opérer à des milliers de kilomètres de distance. C'est-à-dire que le médecin, il peut être, je sais pas, à Paris, et le patient peut être à New York. Mmh. Et en fait, on va pouvoir l'opérer quasiment avec des manettes comme dans un jeu vidéo, si vous voulez.
Gain de temps, économie, donc aussi.
Absolument. Économie, c'est très important.
Est-ce qu'on pourrait imaginer des robots complètement autonomes? Une opération sans chirurgien, par exemple?
Écoute, ça arrivera peut-être. Potentiellement, technologiquement, c'est possible. Il y a déjà des expériences qui ont été menées. On sait, par exemple, que sur certaines opérations, les doigts du robot, de manière complètement autonome, vont être plus précis que ceux du chirurgien. En fait, le rôle du chirurgien va changer. Ça va être un peu comme le pilote d'avion, où tu vois, tout est quasiment automatisé dans un avion, mais il faut quand même un pilote pour superviser tout ça. Et ben, les robots, ce sera un petit peu la même chose. Le chirurgien, son rôle va changer dans les années qui viennent, très clairement.
La robolution, c'est ça, médicale. La robolution. C'est à retrouver aussi quand vous voulez sur l'appli RMC, évidemment, en podcast. Merci beaucoup, Anthony. Bah, tout de suite, Arthur nous emmène sur la Lune.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Mais oui, avec toi, Arthur, ce matin, on va marcher religieusement, attention, sur la Lune.
It's one small step for man, one...
Est-ce que Neil Armstrong a conscience le 21 juillet 1969 qu'il vient de poser le pied sur le territoire d'un évêque? Je ne pense pas. Pourtant, d'après le code de droit canonique de 1917, tout territoire nouvellement découvert tombe sous l'évêché, d'où l'expédition est partie. La mission Apollo 11 ayant décollé de Cap Canaveral en Floride, c'est l'évêque d'Orlando, William Donald Border, qui est devenu automatiquement évêque de la Lune.
Surprenant, mais la paroisse est un peu vide, a priori, là-haut.
Ouais, mais alors ça l'a pas empêché de s'en vanter lors d'une visite du pape Paul VI aux États-Unis. Vous savez, Saint-Père, je suis l'évêque de la Lune, lui aurait-il dit. On n'est pas loin du péché d'orgueil. Mais après tout, il était quand même à la tête du plus grand évêché de l'univers. 14,5 millions de kilomètres carrés en comptant la Floride et la Lune.
Et aujourd'hui, c'est toujours le cas?
Alors, William Border a démissionné en 1989 et l'évêque actuel d'Orlando ne se considère pas comme évêque de la Lune. C'est ce qu'a fait savoir son chargé de communication au journal Science Post.
Ça veut dire qu'il y a un poste à prendre, Arthur.
Oui,
évêque de la Lune, non?
J'espère que c'est bien payé. Hein.
Oui, il y a du boulot.
C'est classe sur un CV, c'est pas mal.
Oui, ça renvoie sur LinkedIn.
Évidemment.
Merci, Arthur, pour cette histoire un peu lunaire, 5h55.
Oh, non.
Une bonne nouvelle avec Anaïs dans l'info en plus. Une bonne nouvelle pour les fans de Kiss. Un documentaire sur le groupe de hard rock américain arrive bientôt sur Netflix.
Oui, c'est le manager du groupe Mystique qui l'a annoncé. Un documentaire sur l'histoire du groupe sortira sur Netflix en 2024. Documentaire qui va se concentrer sur les débuts du groupe à New York en 73, parce que c'est là que tout a commencé et c'est là que Kiss fera d'ailleurs ses adieux à la scène cette année avec un ultime concert au Madison Square Garden de New York le 2 décembre. Ce sera le tout dernier. Avant cela, il y aura aussi un passage en France à Lyon le 27 juin à la halle Tony Garnier. J'ai vérifié, il reste des places si vous êtes intéressé.
Voilà, Kiss à Lyon, c'est ça, hein, le 27 juin prochain.
Exactement.
Et Anaïs Castagna sur RMC Story. C'est tout de suite. C'est tout de suite sur le canal 23 de la TNT. On vous retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 6h sur RMC. Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est l'heure du journal Les Infos, présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La 10e mobilisation, journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec aujourd'hui 13 000 policiers et gendarmes déployés dans les rues. Du jamais vu depuis janvier, de nouvelles tensions sont redoutées. Jusqu'à 1000 éléments radicaux attendus aujourd'hui à Paris. Un Black Bloc témoigne ce matin sur RMC. Et les Bleus qui ont eu chaud hier soir, mais qui s'imposent finalement 1-0 en Irlande grâce à un but magnifique de Benjamin Pavard.
Tiens justement, Benjamin Pavard et son but, on y reviendra tout à l'heure dans la Story Sport à 6h20. Et je vous signale qu'Apolline arrive, mais oui, dans une demi-heure, c'est le début d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story. Il y aura encore plus de policiers et de gendarmes dans la rue aujourd'hui.
13 000, c'est encore plus que jeudi dernier. En effet, c'est inédit même depuis le début du mouvement pour encadrer au moins 150 cortèges partout en France et jusqu'à 900 000 manifestants attendus par le renseignement territorial. Marion Dubreuil du service police-justice à RMC. Renseignement qui attend justement beaucoup plus de jeunes dans les cortèges.
Oui, 2 à 3 fois plus de jeunes sont attendus dans les cortèges cet après-midi. Ils seront plus nombreux aussi dès ce matin à prendre part au blocage de lycées et d'universités. Indignés par le recours au 49-3, ils sont aujourd'hui particulièrement remontés contre la répression et les violences policières. 100 000 personnes sont attendues à Paris, d'après les estimations de la préfecture. 5 500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour encadrer les cortèges et empêcher les dégradations et les actes de vandalisme dans la capitale. Les organisations syndicales évoquent la radicalisation de certains de leurs adhérents, prêts à rejoindre des mouvements d'action violente jusque tard dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur a appelé hier policiers et gendarmes à ne céder à aucune provocation.
Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, redoute la présence d'éléments radicaux, un millier donc à Paris, à Lyon aussi, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux, plusieurs grandes villes qui sont citées. Comme jeudi dernier, tiens, quand les cortèges avaient dégénéré en fin de journée, surtout Lucille Pascalet a retrouvé pour RMC un black bloc qui était dans la rue la semaine dernière et qui sera encore aujourd'hui pour s'exprimer en faisant parler la violence.
La première fois que Camille s'est habillée en noir pour rejoindre ce qu'il appelle le bloc, c'était il y a 10 ans.
On pourrait dire qu'on utilise des modes d'action radicaux. Effectivement, casser quoi ? Voilà, c'est la question.
Selon lui, l'État, les banques, les grandes enseignes sont particulièrement visées.
On casse ce qui représente ce qu'on dénonce, c'est-à-dire le capitalisme, ce système qui est injuste. Et c'est symbolique et c'est accessoire. 95% des cas, un petit artisan, un petit indépendant ne sera pas visé.
Un mode d'action illégal et violent qu'il justifie notamment par le manque de réaction des dirigeants face aux manifestations et aux grèves.
Moi, j'ai considéré que c'est le seul mode d'action qui permettait de faire parler de nos idées, qui faisait peur au pouvoir. Une force en face de la force policière. On est obligé d'entrer en conflit parce qu'ils vont trop loin. Personne ne pleure sur une vitrine. Par contre, sur une vie, il y a des gens qui pleurent. Donc, à partir de ce moment-là, qu'ils réfléchissent à leur mode d'action dans la répression.
Quand on évoque la violence des blocs envers les forces de l'ordre, Camille les balaye du revers de la main.
C'est du pipi de chat. Ils sont protégés, ils sont entraînés. Ils subissent des jets de cailloux. En face, vous foutez des grenades sur une population qui est désarmée.
Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, 891 gendarmes et policiers ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur.
La police des polices ouvre une enquête à Rouen où une manifestante a eu le pouce arraché jeudi dernier, sans doute causé par l'explosion d'une grenade lacrymogène, dit l'IGPN. Le cap des 100 000 signatures est atteint pour la pétition qui demande la dissolution de la BRAVEM, la brigade motorisée au cœur des critiques sur la répression policière. C'était le seuil attendu pour qu'une commission puisse s'emparer du sujet à l'Assemblée nationale. Il faudrait 500 000 signatures maintenant pour que le sujet arrive dans l'hémicycle. Concernant la grève des éboueurs, sachez que le ramassage a repris à Marseille, mais 2 des 3 incinérateurs de région parisienne sont toujours bloqués à Issy-les-Moulineaux et Ivry-sur-Seine. 7 300 tonnes de poubelles s'entassent dans les rues de Paris. Où tiens, le musée du Louvre était fermé pour grève hier. Voilà pour la carte postale parisienne. Ça surprend les touristes en ce moment à Paris, nous dit Martin Cadoré pour RMC.
C'est fermé.
Porte close au Louvre. Un agent de sécurité vient juste de l'apprendre à Ouda, des mois que cette londonienne prépare sa première venue à Paris.
Bad timing. Mauvais timing. J'avais déjà annulé mon voyage à cause du Covid, mais cette fois aussi j'aurais dû annuler. C'est un voyage qui m'a coûté beaucoup d'argent. Je dois aller à Versailles aujourd'hui, mais si c'est fermé, je vais vraiment être déçu.
Déception, mais aussi incompréhension des touristes, comme Daniel, un Allemand en voyage scolaire.
On ne comprend pas vraiment les grèves parce qu'en Allemagne on doit travailler jusqu'à 67 ans.
La curiosité aussi de nombreux voyageurs devant les légendaires grèves françaises, devant la forêt de drapeaux syndicaux au pied de la pyramide du Louvre. On se prend en photo comme Chital et sa fille.
On a vu beaucoup d'infos sur la violence dans les manifestations. On a même hésité à venir à Paris, mais ce rassemblement a l'air plutôt pacifique. Et dans les rues, on a vu beaucoup de policiers. On se sent en sécurité.
Cette américaine, heureuse d'assister, dit-elle, à un bout d'histoire. Même chose pour son compatriote Andrew.
Si je suis là, c'est pour m'immerger dans la culture française et donc faire cette expérience. Finalement, c'est plus important à mes yeux que de visiter le Louvre.
Amusés ou déçus, tous ceux qui n'ont pas pu visiter le Louvre l'assurent, cette expérience ne les empêchera pas de revenir à Paris.
Emmanuel Macron, de son côté, assure qu'il veut continuer à tendre la main aux syndicats, mais en fustigeant la France insoumise, qu'il accuse de vouloir délégitimer les institutions. Sans effet pour l'instant, puisque sa cote de popularité s'effondre de 6 points et retombe à 30% selon un sondage Odoxa ce matin pour la presse régionale. C'est son plus bas niveau depuis la crise des Gilets jaunes. En 2019. Il est 6h05 sur RMC. Sachez qu'il y a encore une fusillade hier soir à Marseille. Cette fois, c'est un adolescent de 16 ans qui a été blessé par balle quartier nord dans la cité des Tourmarines. Concernant les incidents du week-end dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres lors des manifestations contre les méga-bassines, un deuxième manifestant est ce matin entre la vie et la mort, placé dans le coma selon sa mère qui témoigne sur BFM TV.
Il a pris un projectile, un LBD, dans le cou côté gauche. Vis-à-vis de ça, il a eu une hémorragie dans la tête, donc du sang dans la tête. Ça y a fait une compression et ils étaient obligés de l'opérer. On a fait Paris, tout, on n'a jamais rien eu, même si on se faisait gazer, mais voilà. Mais là, c'était vraiment de la répression méchante et lui, ce qu'il aime, c'est chanter. Chanter avec les autres, soutenir, pacifiste, hein, il n'est pas Black Bloc ni quoi que ce soit.
Bon, et puis c'est dans la douleur, c'était laborieux hier soir pour les Bleus qui se sont imposés en Irlande dans la course à l'Euro 2024 en football. 1-0 seulement pour l'équipe de France grâce à un superbe but du défenseur Benjamin Pavard, comme à la Coupe du Monde 2018, grâce à deux arrêts décisifs aussi du gardien Mike Maignan qui s'est déployé en fin de match. C'était laborieux mais ça fait deux victoires en deux matchs et c'est tant mieux, résume le milieu Aurélien Tchouaméni.
C'était pas facile, on s'y attendait face à une belle équipe irlandaise qui plus est à domicile. Donc on a fait le job, on a gagné les deux matchs. En commençant le stage, le coach nous avait donné comme objectif de gagner les points. On en a 6 aujourd'hui, donc on va pouvoir être premier au classement à la fin de cette trêve, donc c'est bien.
Et dans notre groupe, les Pays-Bas se sont relevés en battant Gibraltar 3-0 hier soir. On reverra d'ailleurs les Bleus en juin contre Gibraltar, contre la Grèce également, toujours dans cette course à l'Euro 2024.
Et ce superbe but de Benjamin Pavard qu'on vient de voir sur RMC Story à la télé. On va en reparler tout à l'heure dans la Story Sport dans 20 minutes avec Alex Biggerstaff. Ce sera à 6h20 sur RMC. On vous retrouve Quentin à 7h pour un prochain journal, évidemment, sur RMC et RMC Story. Plusieurs rendez-vous à vous annoncer. Évidemment, Apolline qui arrive à 6h30 pour Apolline Matin sur RMC. Emmanuel Le Chypre va nous rejoindre aussi dans quelques minutes pour le Chypre du jour. On va parler du rêve français, de la propriété, de la maison individuelle avec un sondage. Emmanuel Le Chypre dans quelques minutes. Mais tout de suite, Anaïs.
10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec cette crainte, le mouvement va-t-il s'embraser? Les autorités s'attendent à la venue d'un millier d'éléments radicaux et violents, notamment à Paris.
Et on va tout savoir dans un instant avec un spécialiste du Black Bloc. Bonjour Thierry Vincent.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous enquêtez depuis longtemps sur ces mouvements radicaux. Alors qui sont les Black Blocs? À quoi s'attendre aujourd'hui en marge, on va le dire, des cortèges? On se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est donc vous, Thierry Vincent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de ce qu'on appelle les radicalités politiques et vous avez notamment écrit le livre « Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues » aux éditions de l'Observatoire.
Et vous êtes avec nous parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier soir la présence d'environ 1000 éléments radicalisés dans les cortèges aujourd'hui. Il redoute des violences à Paris, mais aussi à Lyon, Nantes ou encore Rennes pour y faire face. 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui.
Alors Thierry Vincent, vous qui connaissez parfaitement ces réseaux, vous êtes en contact avec certains de ce qu'on appelle les Black Blocs. C'est inéluctable. Aujourd'hui, il y aura forcément des Black Blocs, des éléments radicaux massivement présents dans les cortèges?
Oui, c'est inéluctable. C'est à peu près à chaque manif sociale, qui sont là, même dans les premières manifestations contre la réforme des retraites.
Mais on a beaucoup souligné que les 8 premières journées de mobilisation s'étaient déroulées dans le calme, on a dit bon enfant, etc.
Oui, je relativiserai un petit peu. On va dire que s'il y avait un niveau de désordre à peu près acceptable, mais il y a quand même eu quelques banques cassées, quelques...
Voilà. Alors, on va parler de présence massive aujourd'hui, c'est inéluctable. Il y aura forcément ce qu'on appelle des Black Blocs dans les cortèges.
Si vous voulez, les Black Blocs, ils sont quand même assez revigorés et ragaillardis. Là, ils sont assez euphoriques, le 49-3 et la réaction assez raide, la surdité presque du pouvoir, ça leur a donné c'est le meilleur agent recruteur des Black Blocs, finalement, l'attitude du pouvoir actuel et effectivement là, si vous voulez, ils ont réussi quand même à faire annuler la visite d'un roi d'Angleterre. C'est pas rien, là c'est match retour si on veut, mais oui, ils vont être là.
Mais alors il faut que vous nous expliquiez clairement, parce qu'on n'arrête pas nous en tant que journalistes de répéter ce terme de Black Bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un Black Bloc? C'est pas une activité à part entière. Qui sont ces Black Blocs? Non.
Alors oui, d'abord en fait, on dit les Black Blocs, on devrait dire le Black Bloc, qui est une pratique en fait de manifestation qui est née en Allemagne au début des années 80, donc qui consiste à s'habiller en noir pour s'anonymiser et à commettre un certain nombre d'exactions, à s'en prendre aux symboles du capitalisme, les banques, les assurances, les fast-food, les choses comme ça.
Mais aussi la police.
Et aussi la police, bien sûr. Bah oui, eux voulant casser, la police voulant pas qu'ils cassent, ben il y a confrontation. Alors, ils s'en prennent effectivement à la police, qui est qui est de plus en plus une cible. Hein. Des slogans, c'est tout le monde déteste la police, à CAB, il y a des slogans anti-policiers. Ils s'en prennent pas par contre au petit commerce. C'est intéressant à souligner parce qu'il y a des scènes surréalistes hein, où on voit des affrontements avec la police extrêmement violents et en face des gens sirotant tranquillement leur Perrier ou leur bière en terrasse de café.
Non, donc ils visent les banques,
les assurances également, parfois les agences immobilières, les fast-food, notamment McDonald's, parce que c'est une multinationale, donc très très symbolique. Donc en fait, c'est pas une idéologie en tant que telle. Le Black Bloc, c'est un mode radical. Illégal et violent de manifestation. Mais
j'en viens à ma question, qui sont-ils? Est-ce que c'est structuré? Il y a une hiérarchie? Il y a des leaders, des représentants?
C'est leur force, c'est qu'il n'y a pas de représentants, il n'y a pas d'interlocuteurs. C'est le principe. Avec qui il peut négocier le gouvernement? Avec des gens anonymes en noir, on ne sait pas qui c'est. Il y a des groupes, des petits groupes informels.
Qui communiquent par messagerie.
Bon, en vrai, moi, je ne suis pas dans leur secret non plus, hein, ils ne vont pas me raconter.
On ne pourrait pas les arrêter en amont?
Vous faites comment? Vous avez une fiche de renseignement, vous avez machin, il est fiché à l'ultra-gauche, il est fiché S, ou ce que vous voulez. Vous pouvez pas arrêter quelqu'un sur cette base-là. Mmh. On dit toujours, notamment l'extrême droite dit, on a qu'à les arrêter avant. C'est facile à dire, mais on est aussi dans un état de droit. Donc, il faut prendre quelqu'un en flagrant délit, et avoir quand même des preuves, pour que ça puisse être judiciarisé. C'est pas vrai qu'on est laxiste avec eux, en fait. Hein. Quand ils sont attrapés, il y a des condamnations. Simplement, ils sont pas faciles à attraper.
Alors donc ils viennent dans les manifestations sans être structurés, ils ont pas de banderole, etc. Juste ils s'anonymisent, comme vous dites, ils s'habillent en noir, ils sont en marge autour du cortège syndical classique. Oui. Est-ce qu'il y a une tolérance du reste des manifestants vis-à-vis de ces, parce que ils pourraient aussi être expulsés, on va le dire comme ça, par les services d'ordre de la CGT, de la CFDT. Est-ce que le reste de la manifestation est complaisant avec le Black Bloc?
Je vais pas le généraliser pour le reste de la manifestation, mais il y a une avant, effectivement, les services d'ordre des syndicats, notamment celui de la CGT, c'est des gros bras très, très musclés, on va dire. Ils expulsaient ce qu'on appelait à l'époque les casseurs, il n'y a pas encore vraiment le Black Bloc, ils faisaient la police dans toute la manifestation. Maintenant, ils n'ont plus les moyens de faire ça, les services d'ordre des syndicats, ils sont moins puissants, et les Black Blocs étant beaucoup plus nombreux. Ce qui s'est passé, c'est que les services d'ordre des syndicats se contentent maintenant de protéger leur propre cortège, pour que des gens puissent défiler pacifiquement sans problème, mais les laissent faire
Chacun sa manif. Il y a d'un côté le cortège syndical pacifique et un peu plus loin le Black Bloc qui affronte notamment la police.
C'est ça.
Mais on a l'impression que justement ce Black Bloc, comme on dit, n'en a rien à faire des retraites. En tout cas, que c'est pas son. Il vient pour affronter la police.
Je dirais pas comme ça. Il n'en a rien à faire. Ce sont de réels militants politiques qui sont contre le système de réforme des retraites, mais leur combat il est bien plus large. Ils veulent très clairement renverser le capitalisme. Donc la réforme des retraites, oui, ils sont contre pour tout un tas de raisons, comme ils vont être contre tout un certain nombre de ce qui est considéré comme des reculs sociaux. Mais eux, c'est un combat plus large. Ils veulent en fait, par leur violence symbolique, savent bien que c'est pas en cassant une banque qu'on va faire s'écrouler le capitalisme, hein, c'est évident. Mais ils pensent par leur violence symbolique faire prendre conscience peut-être à un certain nombre de gens de la nocivité du capitalisme. Et l'indulgence ou la compréhension, je dirais, d'autres manifestants envers le Black Bloc, c'est un phénomène très important. C'est pas 300 ou 1000 types complètement isolés du reste de la société, de la manifestation, sinon on les arrêterait. Hein. Vous avez le cortège, ce qu'on appelle le cortège de tête, donc c'est des gens qui défilent avec eux, hors syndicat, qui sont habillés comme vous et moi, qui font rien d'illégal, mais qui, par leur présence hors cortège officiel, manifestent quelque part leur soutien. Ce qui fait que c'est très difficile pour la police d'intervenir et de foncer dans le tas.
De faire le tri, en fait. Quoi,
et de faire le tri, bien sûr.
Bien sûr. Mais alors, justement, on parle beaucoup de la présence désormais des jeunes dans les manifs.
Oui.
On l'a vu jeudi dernier, on l'annonce aussi aujourd'hui. Est-ce que il ne peut pas y avoir un effet d'entraînement, des jeunes qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui voient les Black Blocs agir et qui peuvent être justement entraînés? Il peut y avoir un effet de groupe vis-à-vis de cette jeunesse quand ils voient les Black Blocs plus aguerris agir?
Bien sûr, parce que d'abord c'est très jeune le Black Bloc, ne serait-ce que parce que physiquement c'est assez épuisant, psychologiquement aussi, on prend des risques, c'est comme des risques de garde à vue, de sanctions assez sévères, hein, malgré tout. Quand on est jeune, on peut être séduit, on est un peu rebelle, on peut être séduit aussi par le côté adrénaline, il y a cette dimension, hein, faut pas la nier. Et le Black Bloc, ça peut être assez séduisant parce que il y a une solidarité en fait au sein du bloc, c'est-à-dire que un type en noir cagoulé, il va être solidaire d'un autre type en noir. Si le gars se fait arrêter, par exemple, ils vont essayer de l'extraire, etc. Donc il y a un côté solidaire, un côté famille qui peut être séduisant pour des jeunes.
Et alors juste dernière question, qui sont ces Black Blocs? Parce que quand ils sont arrêtés, on connaît désormais leur profil, j'allais dire sociologique. Oui. c'est quoi ça on dit, c'est des marginaux ou au contraire c'est non, des gens insérés qui ont un emploi, c'est monsieur tout le monde qui sont
c'est,
les Black
Blocs. C'est pas des marginaux, c'est des étudiants, c'est des lycéens parce qu'il y a des très très jeunes, c'est des gens qui ont des boulots relativement classiques, c'est pas des Black Bourges contrairement aux calembours que je trouve assez assez foireux, pas assez moi l'expression
c'est
de
c'est vrai qu'on a ce cliché
de ouais, bon,
oui, il dit Black Blanche Black
ouais, Bourges pardon, il dit enfin bah, il dit Black Bourges, enfin il y a quelques Bourges peut-être au gouvernement de monsieur Macron à ce compte-là, bon c'est des c'est, je trouve que c'est des clichés un peu ridicules. Et surtout, ça occulte un phénomène important, c'est que si au départ, c'est des gens qui ont effectivement un certain capital culturel élevé, ce qui ne veut pas dire bourgeois, fils de prof, c'est pas un bourgeois, ça se prolétarise de plus en plus. Et là, et ça se répand aussi chez des syndicalistes plus classiques, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah finalement, les voies classiques, ça marche pas. Donc peut-être qu'il y a que la violence, peut-être qu'il y a que les Black Blocs et peut-être qu'il y a que ça qui marche.
Merci Thierry Vincent, oui, journaliste, spécialiste des radicalités politiques. Je rappelle votre livre Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu avec nous ce matin, bah, déconstruire peut-être certains clichés autour de ces Black Blocs et nous expliquer un peu mieux qui sont-ils, leur méthode de fonctionnement, parce qu'on risque malheureusement d'en parler beaucoup aujourd'hui en marge de cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On vous attend d'ailleurs au 32-16. Venez réagir à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça peut peut-être décourager certains Français d'aller manifester aujourd'hui, la perspective de ces violences, de ce climat d'ultra-violence dont parle Gérald Darmanin. On continue à en débattre évidemment tout au long de la matinée, notamment avec Apolline qui arrive dans quelques minutes maintenant pour Apolline Matin sur RMC et RMC Story. Et puis dans un instant, vos deux rendez-vous, la Story Sport avec Alex Biggerstaff qui vient de s'installer. Et puis l'économie avec Emmanuel Le Chypre, c'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bientôt 6h30, place à l'économie.
Le chiffre du jour.
Avec Emmanuel Le Chypre qui vient de nous rejoindre. Bonjour Manu.
Bonjour à
notre
tous.
Notre chiffre du jour, c'est 84%.
Eh oui, jamais les Français n'ont autant rêvé de posséder une maison individuelle et pourtant, jamais ils n'ont trouvé ce rêve aussi inaccessible. C'est ce que montre une enquête réalisée pour la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles, puisque 84% des sondés rêvent de vivre dans une maison individuelle plutôt que dans un appartement. C'est 4 points de plus qu'il y a un an. Sauf qu'il y a loin du rêve à la réalité puisque 73% des Français estiment qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans d'accéder à la propriété. C'est quand même 20 points de plus qu'il y a un an. Et surtout, les trois quarts d'entre eux considèrent que devenir propriétaire d'une maison sera bientôt réservé à une élite. Et ça, c'est quasiment 15 points de plus qu'il y a un an.
De fait, le marché de la maison est quasiment paralysé.
Oui. Carrément. D'abord, il y a la hausse des taux d'intérêt. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit. C'était 1% il y a un an, c'est 3% aujourd'hui. Et une étude que vient de publier le réseau La Forêt montre que 7 Français sur 10 pourraient remettre leur projet d'acquisition en cause si les taux dépassaient ce fameux seuil des 3%. Mmh. Et puis, acheter une maison, ça coûte de plus en plus cher, notamment les maisons neuves à cause de la flambée des matériaux.
Et oui, un rêve de plus en plus inaccessible, la propriété individuelle, la maison individuelle. Merci beaucoup, Emmanuel. On passe au sport. Vous avez regardé le match hier soir, Manu, ou pas?
Non.
Eh ben, ça tombe bien. C'est l'occasion de revenir sur la belle prestation de Benjamin Pavard dans la Story Sport.
La Story Sport.
Séance de rattrapage pour Emmanuel Le Chypre avec Alex Biggerstaff. Bonjour.
Salut
Alex.
Salut tout le monde.
C'est l'histoire aujourd'hui d'un garçon emporté par le tourbillon de la vie.
On s'est cogné, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est
retrouvé,
on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.
Et oui, entre lui et le public français, ça avait commencé par un coup de foudre en juin 2018 face à l'Argentine. Mais depuis cet amour de vacances, ils se sont clairement perdus de vue. Benjamin Pavard a sans doute été le joueur de l'équipe de France le plus critiqué ces dernières années pour son incapacité à donner aux supporters des Bleus.
On sait pourquoi ça marchait pas pour lui?
Ouais, bien comme dans tout bon couple, il y a des hauts et des bas, des bons et des moins bons moments à passer. Moi, je me demande surtout ce qui peut bien distinguer le bon du mauvais Pavard.
Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire.
Et le bon chasseur?
Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais.
Bah c'est pour la même chose, ouais.
Bon, lors de la dernière Coupe du Monde, on a vu que c'était le mauvais Pavard.
Disons que niveau romantisme, on a eu droit qu'au préliminaire, hein, puisqu'il n'a disputé qu'un seul match, le premier des Bleus contre l'Australie. Plus rien derrière, Pavard s'est fait huer, siffler. Même le sélectionneur adjoint, Guy Stéphan, était sceptique sur la réconciliation du couple.
Pour l'instant, c'est un choix sportif qui est opéré.
Et c'est l'avenir qui nous dira s'il reviendra ou pas.
Ça paraît peine perdue quand on l'entend.
Et pourtant, Pavard s'accroche à défaut des supporters français. Il se console avec le Bayern Munich, son club. 6 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Didier Deschamps le convoque et là, sorti de nulle part, hier soir, le tourbillon de la vie nous l'a ramené.
Un ballon dans l'axe, il est mal donné, mal dosé par Rabiot, perte de balle derrière. Pavard ! La frappe de Pavard !
Oh, quel but !
Et ça va au fond des filets ! Oh, quelle frappe de la part de Pavard ! C'est pas une demi-volée, c'est pas une volée, c'est un ballon au ras du sol qui s'élève, qui va frotter la transversale et qui va dans la lucarne.
Il est revenu. La réconciliation est en marche, Alex.
Sauveur des Bleus hier soir avec Mike Maignan.
Mignon.
Benjamin sait qu'il revient de loin, c'était pour la rime.
Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de démarrer le match. Ça m'a plutôt bien réussi, ça a bien réussi aussi à l'équipe, donc tant mieux.
Je ne sais pas vous, mais moi, la nostalgie, ça me fait y croire encore pour ce couple. 2018, ce n'est peut-être pas si loin, finalement.
Mais oui, Benjamin Pavard, le revenant, on va dire comme ça. Le revenant hier soir, Benjamin Pavard, et sa frappe de bâtard.
Une frappe de bâtard.
Oui, titre la presse ce matin. Bonjour à Pauline, c'est ce qu'elle a retenu. Apolline, quand il y a un gros mot dans la presse,
ça y est, je suis prête,
elle le dit toute la matinée, elle est comme moi. Frappe de bâtard pour Benjamin Pavard. Bonjour à Pauline de Malherbe.
Je me souviens qu'ils ont chanté ça à l'Elysée, d'ailleurs.
Oui.
Ils ont dit un gros mot à l'Elysée, vous imaginez ça ? Bah oui, ça m'avait forcément. Imaginez bien. Comment ça va ?
Très bien.
Et bah, très heureuse de vous retrouver. Alors évidemment, c'est une journée importante encore aujourd'hui. 10e acte de mobilisation contre la réforme des retraites. 2e depuis l'utilisation du 49-3. Et puis surtout, première mobilisation depuis ce week-end ultra-violent à Sainte-Soline. Toute la rédaction d'RMC est sur le terrain. Les meilleurs invités sont dans ce studio. Il y aura Frédéric Souillot de Force Ouvrière à 7h40. Il y aura Mathilde Panot de la France Insoumise à 8h30. Et puis vous, bien sûr, au 32-16. Est-ce que vous irez manifester pour obtenir quoi ? Est-ce que vous redoutez les violences ? Le standard vous est ouvert. Et puis, tiens, une bonne nouvelle de dernière minute cette nuit, les nitrites. Oui, parce qu'on va parler de jambon aussi ce matin. Une bonne nouvelle pour votre santé, il y aura bientôt beaucoup moins de nitrites dans le jambon et dans les lardons. C'est une obligation désormais, c'est tombé aux alentours de 2h du matin. Eh bien, on vous donnera toutes les informations tout au long de la matinale. 6h27, à tout de suite.